Bonjour mes amis, ça va? Bon, c'est pas un texte que je choisirais pour apporter un message, parce que c'est un texte dur, des jugements, mais c'est comme ça que le Seigneur a choisi, il a décidé pour aujourd'hui, pour les messages d'aujourd'hui. Clément m'a dit que vous avez déjà vu ensemble les contextes du livre d'Amos. Nous parlons de l'année vers 750 avant Jésus-Christ. Les pays étaient riches et prospères sous le règne de Jéroboam II, roi d'Israël. Il faut se souvenir que les pays étaient divisés, Israël était divisé depuis 522. Il y avait les royaumes du Nord avec sa capitale, Samarie, et les royaumes du Sud, Juda, la capitale, Jérusalem. Aujourd'hui, je veux méditer avec vous, basé sur ces textes. Tout d'abord, sur la nature d'un prophète. Ça, ce serait la première partie. Et la deuxième partie, sur le message du prophète adressé à Juda et Israël. Pour moi, c'était un grand défi d'extraire un message de ce texte, un texte dur et direct, d'une accusation terrible. C'est difficile parce que quand je vois l'église des Sommeurs, à mes yeux, vous êtes presque parfait. Vous avez la jeunesse, la beauté, l'intelligence, pas de tous, bien sûr. La sympathie. Vous semblez être des gens honnêtes, éduqués, et vous aimez surtout les seigneurs. Vous ne ressemblez rien du tout au peuple mentionné dans ce texte. Néanmoins, nous sommes des hommes pécheurs. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est pas par nos œuvres. Parce qu'en fait, nous n'avons pas des œuvres. Jésus nous dit que nous sommes des méchants. La Bible déclare que nous sommes des méchants. La Bible même déclare que toute notre justice n'est qu'un vêtement souillé. Vous avez déjà vu un vêtement souillé qui vous trouvez sur le trottoir. On ne touche même pas. Ça, c'est notre justice. Et je me confie au Seigneur pour ces messages. Je me cache derrière le Seigneur parce que j'ai beaucoup médité. J'ai même failli renoncer. J'ai dit, je vais prêcher sur Jean 3,16. Mais je disais à Clément, non, il faut qu'on se mette en œuvre sur ce qui nous est proposé. Pas ce qui nous est naturel. Il faut qu'on travaille en davantage. Et en lisant les livres d'Amos, j'ai déjà lu plusieurs fois, mais la parole de Dieu, c'est incroyable comment elle se renouvelle chaque jour, chaque matin, et aujourd'hui même, elle est nouvelle devant nous. La première partie, les prophètes. Il y a une phrase que j'aime bien de penser, de méditer. C'est que le cœur de Dieu, il bat comme ça. Les hommes. Notre Dieu, c'est le Dieu de la mission. Il n'a pas le plaisir de condamner l'être humain, mais il veut simplement qu'il revienne à lui. Les anges ont voulu les privilèges d'apporter la parole, mais Dieu dit non. Ça, c'était aux hommes qu'il a confié. Les prophètes, il apparaît quand la situation est noire. La décadence spirituelle s'installe, les peuples tournent le dos à l'Éternel. C'est à ce moment-là qu'un homme et une femme, un enfant s'élève pour crier contre les péchés des hommes. Quelle tâche difficile, faibles que nous sommes, comment avoir le courage et l'audace? Mais tout cela vient de Dieu. Certes qu'il doit avoir un plaisir, un bonheur d'être choisi de Dieu. Quelle joie de dire des mots qui ne viennent pas de ta tête, mais de l'Esprit de Dieu. Le monde et ses richesses, tout là, perdent son pouvoir d'attirance sur celui qui a goûté les secrets de l'Éternel. Amos, il n'appartient pas à une école des prophètes. Peut-être que vous avez déjà vu cela. Il n'appartient pas à une école des prophètes comme celle fondée par Élie et Élisée. Amos n'a pas connu les codes, les exigences et la discipline d'un prophète. Tout simplement, il y apparaît du rien. Plus spécifiquement, d'un petit village sans importance près de Jérusalem, Tekoa. Amos signifie porteur des fardeaux. Oui, c'était pas par hasard, parce que tous les prophètes, ils portent un fardeau lourd et solitaire. Ils voient ce que les autres ne voient pas. Israël est prospère. Il voit sa destruction. Les peuples construisent des belles maisons, une pour l'été, l'autre pour l'hiver. Les prophètes, ils voient les palais en flammes. Il y a de la fête, du bon vin et des belles tables dressées. Amos voit la fin. Les belles jeunes filles et les adolescents en mourant de soif. Tel est le fardeau d'Amos. Mais il n'avait pas choisi d'être prophète. À Tekoa, un homme simple, un homme de la campagne, un berger de bœufs. Mais un jour, l'Éternel les prit de derrière les troupeaux, il a dit, « Va prophétiser à Israël, mon peuple. » L'appel d'Amos nous apprend que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. C'est celui qui est souverain, il contrôle toutes choses, il règne. L'appel d'un prophète, d'un pasteur et d'un missionnaire, c'est un mystère. On ne juge pas, on doit juste accepter. Cela nous dépasse. Dieu a sa façon mystérieuse d'agir. Les prophètes, lui, il doit exposer sa vie au péril. Il est menacé parce que son message dérange. Il est bien, des fois, les gâches faites. Jésus a dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Jésus a vécu cette expérience d'être méprisé dans son pays. Il disait de lui, d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie? Qui est la mère, Jacques, Joseph et Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où viennent donc toutes ces choses? Jésus a vécu les mépris en Nazareth. Donc, nous ne sommes pas acceptés chez nous. Un prophète n'est pas accepté dans sa maison. On se moque, on ne comprend pas. Ça commence très mal pour quelqu'un comme Amos. Il doit aller traverser son pays, aller au pays du Nord où ils étaient méprisés. Ils ne s'aimaient pas. Il devait délivrer un message difficile, un message où dans un moment de prospérité où tout le monde était en fête. Les prophètes participent d'un mystère caché à ceux qui l'entourent. Votre union d'église s'appelle AECM, Alliance des Églises Chrétiennes Missionnaires. Mes amis, aimez vos missionnaires, ceux qui sont partis loin, mal compris, sujet de moquerie dans la famille. Ils sont des prophètes de Dieu dans cette génération pervertie. Les seuls liens, les seules consolations d'un prophète, c'est l'Église qui l'envoie. Et parfois, un missionnaire doit partir sans la reconnaissance de son Église, simplement par l'appel que Dieu lui fait. Le prophète, c'est d'abord quelqu'un de tellement commun. Il passe inaperçu parmi nous. Jésus, le plus grand prophète de l'histoire, en est l'exemple. Mais le prophète ne doit pas se décourager, car le Seigneur Dieu, c'est celui qui renouvelle, qui les fortifie. Il doit continuer à parler et ne pas s'arrêter par des critiques, par des menaces. S'il y a un prophète parmi nous, je veux simplement dire, va et prêche la bonne nouvelle de la parole. Certains ne t'écouteront pas, rien du tout, mais il y a des âmes précieuses qui attendent les paroles de l'Évangile. Tel est le projet de Dieu pour l'Église missionnaire. D'une façon plus large, nous sommes tous des prophètes, nous sommes tous des envoyés, nous sommes tous des missionnaires, là où nous sommes insérés, soit dans notre travail, dans notre voisinage, nous sommes des missionnaires. Et le Seigneur nous ordonne, va et prêche ma parole. Bien sûr que des seuls, c'est pas simplement des mots, c'est par notre exemple. Et malheur à celui qui fait scandaliser l'Évangile, celui qui prêche une chose et qui vit dans sa vie une autre. Le Seigneur nous appelle à vivre ce que nous prêchons, ce que nous répétons, nous devons mettre en pratique. La deuxième et dernière partie de cette méditation, ce sont les crimes de Judas et les crimes d'Israël. J'ai choisi 6 qui m'ont parlé au cœur, que je voulais partager avec vous. Les premiers crimes, c'est les mépris de la loi. Les peuples juifs, Israël et Juda, c'était les peuples de la loi. Ils avaient reçu la loi. Ils avaient reçu la révélation de Dieu. Ils devaient conquérir la terre. Ils devaient être lumière dans l'Antiquité. Mais ils ont perdu de vue. Ils se sont mélangés avec le peuple. Ils se sont devenus des idolâtres. Ils ont mélangé les cultes de l'Éternel avec les cultes existants dans leur région. Josué, les successeurs de Moïse, devraient prendre la relève et conquérir le pays et distribuer la terre. La tâche était immense et l'Éternel dit à Josué, simplement, prends courage, tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a présentée, sans t'en encarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ces livres de la loi. Médite-le jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises, alors tu réussiras. Mes amis, c'est Ce n'est pas un livre que nous avons simplement pour lire. Lire simplement, même un robot, on est capable aujourd'hui. Mais c'est lire, c'est méditer et c'est d'appliquer. J'ai rencontré des gens qui connaissent la Bible d'un bout à l'autre. L'hébreu, les grecs, l'histoire, la philosophie. Néanmoins, ils sont secs. Ils sont sans affection, ne savent pas sourire, sont morts, incapables d'un geste amical. Prenons ces livres-là, lisons-le, méditons en tout ce qu'il nous dit, non par le désir de savoir plus que les autres, mais pour seul plaisir de plaire à Dieu. Appliquons coûte que coûte cette parole aujourd'hui pour nos vies. Alors, nous allons réussir. Et je crois qu'au plus profond de moi, Dieu ne sera pas notre juge, mais un Père plein de bénédictions pour nous. Le deuxième crime, l'idolâtrie, les cultes aux idoles, aux images, des représentations en métal, en bois, en argile, afin d'être adoré. L'idolâtrie, c'était les grands péchés d'Israël. Dieu, le Créateur, Dieu, l'Esprit, a toujours interdit Israël la fabrication des représentations d'idoles, afin que les gens ne soient pas tentés de se prosterner devant ces objets. Il a fallu à Israël la déportation en Babylone, afin que l'idolâtrie soit radicalement à enlever du cœur des Hébreux. Aujourd'hui, les idoles, mes amis, ont changé de nom. Ils s'appellent des voitures de luxe, pour certains, des vacances paradisiaques, des portables aussi. Il y a des gens qui sont en train d'attendre l'application confession des péchés pour faciliter la vie, tellement ils sont accroché au portable. Et les temples de ces idoles sont les magasins de luxe où beaucoup de gens perdent leurs âmes. Sur le plan spirituel, l'idolâtrie peut être prendre des mille formes. L'idolâtrie peut être notre conjoint, une fille, un fils, un père, une mère, jamais une belle-mère, bien sûr. Mais il y a des gens qui sont, ils aiment et donnent leur première place à son fils. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, non, la première place, c'est à moi seul. C'est à moi seul. Il y a ceux qui aiment leurs épouses et leurs époux de tout leur cœur. Le Seigneur a dit, à moi la première place. Dieu exige la première place dans notre cœur. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. Et après, nous sommes libres. Le troisième crime, c'est l'injustice sociale. Amos est appelé les prophètes de la justice sociale. Verset 6, car pour un pot de vin, ils vendent l'innocent. Ils piétinent les pauvres en leur brisant la tête dans la poussière. Ils faussent les droits des humbles. Je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise dans cette église parmi vous. Et des gens qui emploient d'autres personnes. C'est vraiment très difficile d'être patron. Si tu es bon, les gens s'en profitent. Ils abusent. Tu donnes la main, ils veulent le bras, après tous les corps entiers. Si tu es dur, tu es appelé des radins. Et ils agissent derrière, par derrière. Il n'y a pas moyen d'échapper. Pour être un bon patron, Il faut avoir un mélange des fermetés, des justices et des bontés. Personne ne quitte pas son foyer pour aller chez les autres et obéir à tout ce qu'il demande par un simple plaisir. Il est fait car il a faim. Il doit survivre. Patron, comme dit l'épître de Jacques, soyez bon envers vos employés. Sachez-le, le Seigneur est l'avocat des pauvres et rien n'échappe à son regard. Nous avons vu quelques mois avant l'épître de Jacques. Nous pouvons faire des liens de l'épître de Jacques avec Amos. Donc plusieurs fois, Jacques nous rappelle les conflits entre les pauvres et riches. Mes amis, vous qui pouvez, vous à qui le Seigneur vous a confié des richesses, soyez bons, soyez bons envers celui qui est dans le besoin, surtout pour les frères et sœurs dans la foi. Empruntez, donnez, telle est la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas propriétaires, rien n'est à nous. Tout nous a été confié, tout nous a été donné par le Seigneur. Soyons bons pour ceux qui ont besoin. Le quatrième péché, les fils comme les pères vont vers la même fille. C'est ainsi qu'ils outragent moi qui suis saint. Et ça me rappelle le verset d'Hébreux 13, 4, que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Le cinquième péché des Judas et d'Israël, la corruption parmi les prophètes. Verset 11, « J'ai choisi certains de vos fils pour être des prophètes et certains de vos jeunes gens pour m'être consacrés par vœux. Mais à ces hommes consacrés, vous avez fait boire du vin et aux prophètes, vous avez ordonné, ne les prophétisez pas. » Ce n'est pas peut-être un message pour l'Église des sans-morts, mais j'ai honte de dire que dans mon pays, les milieux évangéliques on dirait pas complètement, mais il est atteint d'une grave maladie spirituelle, c'est la corruption. C'est l'argent, ce sont les grandes églises, ce sont les scandales qu'on voit tous les jours. Tout pour l'argent. Des pasteurs qui vivent dans la débauche, des milieux pas possibles, de ce qu'on appelle évangélique. J'ai honte de vous dire que j'ai peur d'aller dans certaines églises. J'évite gens de certaines églises. J'ai peur qu'ils entrent dans ma maison. Parce qu'ils ne sont pas des frères et sœurs. Ils connaissent la Bible. Et ils font une faculté théologique. Mais leur esprit est complètement corrompu par les plaisirs de ce monde. Mon église à moi, elle avait 20 000 personnes. 20 000 personnes. On avait 4, 5 cultes par dimanche. Et tout est parti au vent. Ça n'existait plus. C'était un grand scandale. C'était l'église qui nous envoyait en France. Du coup, quand on rentre au Brésil, on n'a pas d'église parce que ça n'existait plus. Le pasteur est parti avec une partie de l'argent, l'autre est parti, ses enfants ont pris. et toutes les gens sont dispersés. Et tout ça, le nom du Seigneur est outragé. C'est pas le cas, mais je vous prie d'être fidèles dans les moindres des choses, d'éviter même l'apparence du mal, d'être fidèles dans votre argent, dans les petites dépenses, dans les petits tickets, dans les moindres des choses. Ça, c'est pas l'œuvre des hommes, ça c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est le Seigneur qui jugera chacun et chacune de ses actes. Soyons justes, soyons honnêtes dans nos affaires. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un moment très difficile pour les ministères. C'est qu'il y a beaucoup qui veulent partir au ministère, mais en fait, ils veulent prendre le micro. Ils veulent parler devant les gens, avoir une position dans un groupe, mais sa vie spirituelle est morte. C'est bizarre, mais je vois dans beaucoup d'églises, des responsables, ils sont comme ça, sont morts, sont aveugles. Le métier des prophètes a été déprécié. Nous ne pouvons continuer de cette manière. L'Église, nous devons reconnaître que nous vivons les meilleurs de nos jours. Venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira, disait Osée, un contemporain d'Amos. Mon message, mes amis, se trouve dans le livre d'Amos, et chapitre 5, versets 14 et 15. Efforcez-vous de faire ce qui est bien et non ce qui est mal. Et haïssez le mal, aimez ce qui est bien et rétablissez les droits en justice. Parce que les temps sont vraiment difficiles. Nous savons qu'un jugement va s'abattre sur terre. Et c'est pas nous qui nous disons, c'est pas les prophètes du pessimisme, mais c'est la science qui nous dit. Hier, il y a eu un orage au sud, je ne saurais pas vous dire où, mais ils ont jamais vu ça. Des grêlons qui ont arruiné des plantations, qui ont cassé toute une ville. Et nous savons que tout ça, ça a été prédit dans la parole de Dieu. Mais le Seigneur compte avec les restes, un reste fidèle, ceux qui ne se vont pas pour l'argent, mais qui restent fidèles à sa parole. À ces petits restes-là, les livres d'Amos, au dernier chapitre, le Seigneur dit que pour ces petits restes, il aura une bénédiction de l'Éternel. Soyons de côté de ces fidèles. Moi, je vais suivre Jésus jusqu'au bout. Je vais m'efforcer de passer par la porte étroite. Je vous invite aussi à rester fidèles au Seigneur. Le jugement qui est abattu sur Judas, sur Israël, montre que du Seigneur, on ne se moque pas. Tout ce que l'homme sème, il moissonnera. Tout ce que vous faites aujourd'hui pour le bien, le Seigneur est là dans l'avenir pour vous bénir. Le même, tout ce que nous faisons de mal, le Seigneur va nous juger. Le Seigneur est fidèle et juste. Il nous donne et il nous promet des bonheurs sur terre. À nous, c'est d'obéir sa parole. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, nous voulons te dire que nous t'aimons de tout notre cœur, que nous sommes faibles et nous péchons tous les jours, mais nous voulons, Seigneur, que notre vie soit en règle et nous te demandons pardon de tous nos péchés. Nous te demandons de nous aider, ô Père, à faire ce qui est bien à tes yeux que tu puisses bénir cette Église, chacun qui est là aujourd'hui, ô Père, et ce qui ne plaît pas dans nos vies, que tu puisses nous aider à changer. Ô Père, aidez-nous pour que ta gloire puisse briller sur nos vies. Bénis-nous, Seigneur, aujourd'hui, et sois présent dans cette Église. Au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse.